Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Washington annonce une série de sanctions contre la Turquie au moment où les troupes de Damas se déploient dans le nord de la Syrie. On fait le point avec nos correspondants aux États-Unis et au Kurdistan irakien pour en savoir plus sur les détails de l'accord passé entre le régime syrien et les Kurdes.
Les femmes jugées pour l'attentat raté près de Notre-Dame de Paris ont été condamnées hier à des peines allant jusqu'à 30 ans de réclusion, vous l'entendrez. Avec l'avocat de l'une d'entre elles.
Ziad Takieddine rétropédale, l'homme d'affaires, personnage clé du volet financier du procès Karachi, est revenu sur ses déclarations, nous expliquera Florence Turm. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Allez, un petit paradoxe, Margot. Comment les recettes fiscales peuvent-elles augmenter si l'impôt diminue? On posera la question à Eric Heyer, il est économiste.
Difficile de suivre Donald Trump. Le président américain a annoncé hier des sanctions contre la Turquie. Les États-Unis ont encore réclamé la fin immédiate de l'offensive turque menée contre les Kurdes en Syrie, un peu plus d'une semaine après avoir annoncé le retrait des troupes américaines de la région, ce qui avait déclenché cette intervention militaire. Le président semble maintenant reculer face aux pressions du Congrès, Loïc Loury.
L'offensive militaire turque met en danger des civils et menace la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Ces propos sont bien ceux de Donald Trump et cela 8 jours après avoir donné un quasi feu vert au président turc pour déclencher son opération contre les Kurdes. La Maison Blanche n'en est donc plus là. Son locataire promet une hausse des tarifs douaniers sur l'acier turc. Il précise aussi que les soldats qui se retirent actuellement de Syrie resteront dans la région pour surveiller la situation. Donald Trump se Selon son vice-président Mike Pence, c'est même allé plus loin lors d'un coup de fil avec son homologue turc. Le président Trump a été très clair. Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, instaure un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie pour mettre fin à la violence. Mais si le ton monte, les premières sanctions restent timides puisque seuls 3 ministres turcs sont visés, certes importants à la défense, à l'énergie, à l'intérieur. La Maison-Blanche, toutefois, pourrait en faire plus face aux pressions du Congrès où démocrates et républicains s'entendent pour dénoncer le retrait américain de la région.
Précision de notre correspondant à New York, Loïc Loury. Les sanctions arrivent-elles trop tard? La donne a beaucoup changé ces dernières 48 heures. Les Kurdes sont désormais aidés par Damas. L'armée du régime syrien a commencé à se déployer hier dans le nord du pays. Mais les contours de cet accord sont encore flous. Aurélien Colli, notre envoyé spécial à Erbil, au Kurdistan irakien voisin, a pu obtenir des éléments de réponse.
Oui, le régime syrien déploie son armée dans le nord-est pour contrer l'offensive turque. Oui, c'est un succès pour Bachar al-Assad et surtout pour Moscou, son fidèle allié qui a négocié cet accord. Mais non, les Kurdes n'ont pas renoncé à l'autonomie conquise à la faveur de la guerre civile et surtout de la lutte contre Daesh. C'est uniquement un accord militaire. Le rôle de l'armée syrienne se limite à la protection des frontières face à l'agression de la Turquie, explique Lokman Eme, porte-parole de l'administration autonome kurde, qui insiste aussi sur le maintien de la gestion des affaires courantes par les Kurdes. La garde des prisonniers de Daesh et celle des camps de leurs proches resterait aussi entre leurs mains. Il n'y a pas d'accord politique, nous continuons notre travail, les écoles vont rouvrir, nos forces de sécurité intérieure restent actives, indique encore le porte-parole, en précisant quand même que l'accord exclut 2 secteurs frontaliers du Kurdistan syrien, où se concentre aujourd'hui l'offensive turque, autrement dit une bande d'une 100 kilomètres, qui pourrait donc avoir été concédée à la Turquie par la Russie, maîtresse du jeu en Syrie face au retrait des Américains et à la frilosité des Européens.
Aurélien Colli, envoyé spécial au Kurdistan irakien. Le bilan est désormais de près de 70 morts au Japon à cause du typhon Hagibis, selon une chaîne de télévision sur place, qui ajoute que 15 personnes sont toujours portées disparues. De nouvelles précipitations sont attendues aujourd'hui. Les autorités redoutent des glissements de terrain. Les résultats officiels ont confirmé hier soir la nette victoire de Kais Saied. Cet universitaire novice en politique a été élu président de la Tunisie avec plus de 72% des voix dimanche. Il devrait prêter serment d'ici la fin du mois. C'est plus un événement diplomatique qu'un match de football. La Palestine reçoit l'Arabie Saoudite ce soir en proche banlieue de Jérusalem dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Pour la première fois, des footballeurs saoudiens vont donc se rendre en Cisjordanie. Les équipes se rencontraient jusque-là dans des pays tiers. Frédéric Mettezo.
En se rendant en Cisjordanie, les footballeurs saoudiens ont même eu l'autorisation d'Israël de visiter la vieille ville de Jérusalem hier. Smartphone à la main pour filmer, les yeux écarquillés, ils ont pu prier à la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint pour les musulmans au-dessus du mur des Lamentations. Les visites de saoudiens en Cisjordanie occupée et en Israël sont extrêmement rares, car Riyad ne reconnaît pas l'État juif. Mais la Fédération palestinienne de football a insisté pour que les saoudiens viennent en Cisjordanie. Le président Mahmoud Abbas exulte et voit un succès diplomatique pour l'autorité palestinienne. Mais cette concession, c'est d'abord un geste envers Israël. Depuis quelques années, les deux ennemis jurés de l'Iran se sont rapprochés. Leurs services de renseignement coopèrent. En un mois, leurs délégations se sont rencontrées à l'ONU pour évoquer un pacte de non-agression. Israël a souhaité une bonne fête nationale au royaume et l'ambassadrice saoudienne aux États-Unis une bonne année aux Américains juifs. Riyad a choisi, la lutte contre l'Iran est plus importante que la lutte pour un État palestinien. Voilà pourquoi des partis et des collectifs palestiniens appellent au boycott du match, mais il aura bien lieu ce soir dans un stade rénové à quelques dizaines de mètres du mur israélien de séparation.
Frédéric Mettezo, correspondant de France Culture au Moyen-Orient. Un enfant sur trois qui a moins de 5 ans est mal nourri ou en surpoids. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, publie aujourd'hui un rapport inquiétant. À noter que la sous-nutrition affecte 4 fois plus de jeunes enfants que le surpoids.
7h06 sur France Culture, le verdict est tombé hier soir dans le procès de l'attentat raté près de Notre-Dame.
Des femmes avaient tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz près de la cathédrale il y a 3 ans. Après avoir délibéré pendant plus de 10 heures, la cour d'assises spéciale à Paris a prononcé de très lourdes peines. Inès Madani a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle et Ornella Gilligman à 25 ans. Antoine Marette a recueilli la réaction de son avocat maître Xavier Nogueras à la sortie de l'audience.
C'est une peine extrêmement lourde. Elle pense à sa famille, elle pense aux longues années qui l'attendent en détention. Globalement, ce sont les réquisitions qui ont été suivies, sauf qu'ils ont décidé de ne pas assortir la peine d'une période de sûreté, et ça c'est très important. Là, elle peut prétendre, après ça ne se fera pas forcément, mais elle peut prétendre à une libération conditionnelle dans 9 années. Donc elle réfléchit à ce qu'elle va faire, à ce qu'elle va faire appel ou pas, elle a 10 jours devant elle. C'est un procès qui est lourd pour elle en termes d'émotion, de pression. Les médias sont présents chaque jour. Tout ce qui est dit est retranscrit dans la presse. Elle se pose véritablement la question. Elle a aussi conscience que l'acte qui a été commis est un acte extrêmement grave. Peut-être que c'est le temps pour elle de tourner la page. En tout cas, c'est une décision qui lui appartient. C'est un dossier qui est hors norme parce que c'est une histoire, c'est un destin. Vous avez suivi ce débat. C'est pas n'importe quel procès terroriste. Il y a des spécificités, il y a des rencontres, il y a des passions. Donc elle l'a pris se délibérer, cette décision, avec beaucoup de souffrance, parce que la première chose à laquelle elle pense, ce sont ses enfants. La première chose qu'elle m'a dit dans le box, c'est comment vais-je voir grandir mes enfants en détention. Je pense qu'on aurait tous eu la même réaction. 25 ans, si elle sort, c'est 55, 57, elle en a 32. Donc je pense qu'on peut tous comprendre la réaction qui est la sienne. Elle a 10 jours pour faire appel. Est-ce qu'elle a envie de revivre tout ça? Je ne crois pas.
L'avocat Xavier Nogueras. Un autre procès très médiatisé se poursuit, celui du volet financier de l'affaire Karachi au tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de commissions occultes en marge de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 95. Hier, surprise, l'homme clé de cette affaire, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, est revenu sur ses déclarations, Florence Turm.
Je n'ai pas financé la campagne de Balladur. Ziad Takieddine le dit et le répète, à la fois agacé et souvent confus dans ses propos, mais très clair sur ce point. Patiemment, la présidente du tribunal reprend ses déclarations du 21 juin 2013 devant le juge d'instruction. L'homme d'affaires franco-libanais avait alors affirmé avoir remis à 3 reprises des enveloppes en espèces à Thierry Gobert pour un montant total de 6 millions de francs. Aujourd'hui, Ziad Takieddine prend donc le contre-pied de ses déclarations précédentes et pour l'expliquer, affirme avoir agi sous la pression du magistrat instructeur au bout de 20 jours d'incarcération. Les avocats des parties civiles l'interrogent sur la proximité entre les retraits intervenus sur son compte suisse et la remise des fonds en espèces sur les comptes de campagne. Ziad Takieddine riposte énervé, j'ai le droit de ne pas répondre à des questions aussi stupides. Sa nouvelle version des faits repose exclusivement sur les liens qui l'unissaient à Thierry Gobert, assis lui aussi sur le banc des prévenus. Quand j'ai de l'argent, je ne compte pas. Thierry Gobert, c'est mon ami, c'est un frère et je lui ai simplement donné de l'argent par amitié. Vous contestez donc les rétrocommissions, insiste son avocate. Oui, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Florence Turm. Ils avaient 17 et 22 ans. Deux hommes ont été retrouvés morts hier sur une plage du Touquet. C'est la première fois que des corps sont découverts sur une plage du Pas-de-Calais depuis le début des tentatives de traversée de la Manche dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Le préfet de Normandie se félicite d'une excellente nouvelle selon lui pour les agriculteurs. Les mesures de restriction sur le lait et les produits laitiers seront bientôt levées. La production était suspendue depuis l'incendie de l'usine chimique Lubrizol de Rouen fin septembre. Des résultats d'analyse semblent favorables à la reprise de la collecte. Nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Le ministère de l'économie dévoile aujourd'hui son pacte productif. Un nom opaque mais qui cache un objectif ambitieux, aboutir au plein emploi comme l'avait souhaité Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Et pour atteindre cet objectif, il faut redéfinir notre politique industrielle. Le pacte prévoit donc de nouveaux allègements de charges pour les entreprises via la baisse de ce qu'on appelle les impôts de production. Anne-Laure Jumet.
Les impôts de production, ce sont des impôts qui pèsent sur les entreprises avant même de savoir si elles font des bénéfices. Ils représentent 77 milliards d'euros, soit 3,3% du produit intérieur brut, 7 fois plus qu'en Allemagne et 2 fois plus que dans la moyenne des pays européens, souligne Bercy, qui veut donc les baisser. Mais ça ne se fait pas en un tour de main. Près de la moitié sont versés aux collectivités territoriales, notamment les deux impôts qui ont remplacé la taxe professionnelle. Donc, le gouvernement veut prendre le temps de la concertation avec les élus. Et puis, l'autre impôt dans le collimateur, c'est la C3S qui abonde, elle, le budget de l'État. Elle taxe en cascade les biens produits et pénalise donc particulièrement les entreprises françaises par rapport à leurs concurrents internationaux. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire est favorable à sa suppression, mais c'est un coût de près de 4 milliards d'euros pour les finances publiques. Ce sera un sujet pour le prochain budget. Il faudra trouver des économies en face. Dans l'intervalle, les Français sont appelés à faire part de leurs suggestions. Une consultation sur Internet sera lancée. Et pas que sur ce sujet, il sera question plus largement de l'avenir de notre industrie et de notre agriculture. Les décisions, elles, sont attendues pour le début de l'année prochaine.
Anne-Laure Jumet. 4 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange ce matin pour des risques d'orages et de pluies, inondations. Sur le reste du pays, le temps sera variable, souvent gris avec des averses prévues. Météo France prévoit 15 degrés à Lille cet après-midi, 16 à Paris, 17 à Toulouse et 21 degrés à Nice, Guillaume.